raisonnable. Un mari avec de l'argent, c'était moins risqué que monter une entreprise. Elle n'avait investi que dans son corps, et comme à ce moment-là, elle n'avait pas besoin du docteur Maurice pour réparer les dégâts de l'âge, l'investissement avait dû se limiter à des fringues et du maquillage pour harponner un homme, et c'était tombé sur mon père. Elle avait tiré un joli petit lot, parce qu'il venait d'une famille bourgeoise à la tête d'une chaîne d'établissements bancaires ruraux. Pas un coup à être multimillionnaire, mais à l'aise quand même sur quelques générations. Papa racontait en rigolant que tout ce qu'elle avait tenait dans une valise-cabine, mais je crois pas qu'il ait jamais pensé qu'elle l'avait alpagué pour son argent. Les hommes sont tellement naïfs. Livia était arrivée à Murcie beaucoup plus chargée. Elle avait apporté avec elle des meubles affreux qui venaient de son pays, et franchement, je sais pas comment Seth a gobé ça. On vient pas tenter sa chance en Amérique en trimballant un buffet et un fauteuil avec soi. C'était sûrement n'importe quoi, mais ça faisait partie de la légende. Et le plus drôle, c'est que, quand elle a disparu, tout ce qui est resté d'elle, c'était ses foutus meubles. En les voyant tous les jours, elle pouvait être sûre que Seth et Léo risquaient pas de l'oublier. Je suis partie cet hiver-là, juste avant que Livia laisse derrière elle son mari et sa gamine. En fait, j'avais pas prévu de fuguer. Sinon, je me serais mieux préparée. J'aurais pris des vêtements chauds, des vraies chaussures, de la nourriture. Non, en fait, je suis partie comme ça. Juste parce que ce que j'avais entendu avait cheminé dans ma tête de moineau comme une balle de revolver, pour aller se caler dans un endroit où elle avait fini par exploser. Je n'étais qu'une gosse, mais cette petite phrase que j'aurais jamais dû entendre était assez claire pour que je la comprenne. Je m'étais cachée sous mon lit, j'avais pleuré, et c'est au moment où j'ai réalisé que je ne pouvais en parler à personne, ni à Léo, ni à ma mère, que j'ai décidé de partir une bonne fois pour toutes. Ça a été la première vraie décision de ma vie, je crois bien. C'était 2 jours avant Noël. Il neigeait depuis 1 semaine, ma mère était encore partie faire des courses, et personne ne se demandait ce que je fichais. Je me suis glissée en bas de l'escalier jusqu'à la cuisine. J'ai ouvert la porte, et j'ai failli changer d'avis parce que le froid m'a pincé les joues comme dans un jeu cruel. Mais je suis partie quand même tout droit sur le chemin derrière la maison dans ma chemise de nuit. J'avais juste enfilé ma robe de chambre en molleton boutonnée bien haut et mes chaussons bleus. Je sais pas trop ce que j'espérais à ce moment-là, juste leur faire peur ou vraiment disparaître. Je pouvais bien m'enfoncer dans les bois sans que rien soit modifié. J'ai marché au milieu du chemin, là où la neige était tassée. Il était éclairé par la lueur de la lune entre les branches, et j'étais tellement légère que mes pieds ne laissaient presque aucune trace sur le sol. À croire que je n'existais pas. C'est drôle ces moments où tout change. Il y a un avant, puis un après. Et même en le voulant très fort, on ne peut pas effacer ce qui a été dit. Ils m'ont interrogée pour savoir où j'étais allée, et si quelqu'un m'avait emmenée de force, sans jamais imaginer que je puisse être partie de moi-même. Foutu adulte qui pense qu'un gosse ne peut pas avoir de bonnes raisons de s'enfuir. Il n'y en a qu'un seul qui ait compris. Il paraît qu'il avait passé des jours et des nuits à me chercher. Le vieux Zulewski s'était agenouillé devant moi. Il m'avait regardé avec ses beaux yeux bleus durs comme de la pierre. Il m'avait parlé doucement. Il m'avait dit « Tu préfères ne rien dire ? C'est ton secret et tu veux le garder pour toi. » Je lui avais fait un sourire déformé par mon pouce dans ma bouche, et aussi parce qu'il paraissait plus futé que les autres, un clin d'œil qu'il avait été le seul à voir. Après les pluies torrentielles de la nuit, l'eau s'est mise à dévaler l'allée comme une voiture de course. Ça déborde de partout. De ma fenêtre, je vois les graviers qui roulent, des morceaux de peau en terre cassée, des branchages. J'ai même vu passer un carton d'emballage de vélo d'appartement qui flottait sur les eaux. Des pluies orageuses en plein mois de novembre, on aura tout vu. Papa bataille pour monter un rempart de fortune dans le garage en contrebas de la maison, comme s'il contenait des trucs à sauver. Les pluies peuvent bien tout emporter. Les albums photos, les vieux meubles, les réserves d'eau déviant de maman qui lui coûte une fortune, et sa collection de sèche-cheveux qu'elle garde, on sait jamais, au cas où la Troisième Guerre mondiale éclaterait et qu'il n'y ait plus de possibilité de se faire livrer à domicile. Pour la forme, je shoote dans une caisse pleine de vaisselle, mais papa réagit pas. Il est là, les bras pendants le long du corps, les épaules un peu affaissées. C'est un banquier pas bricoleur pour un sou. Pour ce genre d'intervention, il faudrait appeler Seth. Mais Seth ne viendra pas, sauf pour ouvrir en grand les portes du garage et laisser l'eau nous noyer.